Welcome to Greendale's Drug Awareness Show!
I finally have a case of lupus.
Lester, is this what you want?
Mr. Buckland, we are the sexual revolution.
What is up with the sex? It's all anybody thinks about anymore. Sex, sex, sex. What is the big deal?
Call it. Are you right?
Yeah.
Yeah?
Are we having fun yet?
Bien le bonsoir, bienvenue à l'écoute de Série Folie, l'épisode 22 de la saison 3, avec Aurore évidemment. Bonsoir Aurore.
Bonsoir Ben.
On va vous parler série télévisée de manière la plus intelligente possible, avec comme première partie, vous le savez, si vous êtes fidèle à cette émission, une petite revue de ce que Aurore a pu visionner pour nous cette semaine.
Oui, et on va commencer pour une fois, on va le comprendre tout de suite, par une série belge et même wallonne, hein, en grande partie, puisque c'est une production de la Une, il s'agit de La Trêve.
Ah, cette fameuse série emblématique dont on a vu passer les publicités.
Oui,
et
les publicités, les affichages un peu partout et tout. Donc,
ils en sont fiers de leur série télévisée qui vient de se terminer, je pense.
Elle vient tout juste de se terminer. J'ai entendu, il n'y a pas longtemps, même des remerciements pour tous les téléspectateurs qui ont été fidèles et qui ont regardé cette... cette série, donc ils sont manifestement plutôt satisfaits, surtout qu'apparemment il y aurait déjà des possibilités pour que ce soit diffusé aussi en Flandre et en France, donc je crois qu'ils sont contents. Maintenant, on va essayer de faire un petit peu le débriefing, puisque je n'ai pas voulu en parler jusqu'ici.
Alors dans ton débriefing, j'avais envie d'entendre deuil. Est-ce que tu as aimé cette série?
Alors,
pas vraiment. Tu n'es pas convaincu.
On va déjà commencer par dire une chose, c'est un vrai tour de force de la part d'une région aussi petite que la Wallonie. D'avoir pu réaliser une série pareille. On voit qu'il y a les moyens. On voit aussi que c'est une série qui est très propre au niveau de la réalisation, au niveau de l'image, au niveau du scénario aussi. Tout ça tient plutôt bien ensemble. C'est très propre. C'est bien foutu. Donc bon. À ce niveau-là, franchement, je ne peux qu'encourager. Je ne voudrais surtout pas que ce que je vais dire après soit un message négatif vis-à-vis de cette tentative, parce que tout ce que j'espère, évidemment, c'est qu'il y en aura d'autres. Hein. Mm-hmm. Vraiment, pour un premier essai, je crois que on peut malgré tout en être plutôt content.
Bien.
Maintenant.
Mais, il y a un grand mais. Où est-ce que le bas blesse?
Mais il y a beaucoup d'endroits où le bas blesse, malheureusement. La première chose que je citerai, c'est pour les personnes qui ont quand même déjà un certain bagage au niveau des sériels, hein, qui ont déjà vu pas mal de séries, ils vont quand même, comme moi, pouvoir jouer au jeu des comparaisons. Parce que en permanence, au moins en tout cas pour les premiers épisodes, on se dit « Ah tiens, ça c'est comme dans telle série, ça c'est comme dans telle autre et tout ». Au niveau du générique, ça ressemble, c'est assez proche du générique de True Detective, par exemple, de la saison 1. au niveau de la narration et de la manière dont l'histoire est menée, ça ressemble énormément à The Killing, dans la mesure où chaque épisode mène à la révélation d'un suspect potentiel qui se révèle n'être jamais totalement le coupable, et donc on avance comme ça d'erreur en erreur, même si à chaque fois c'est un petit bout de la vérité qui est révélé. Mais tu je sais pas si tu te souviens bien des deux premières saisons de The Killing, c'était vraiment comme ça que ça fonctionnait. Et d'ailleurs, pour les gens comme moi, pour qui finalement l'histoire en elle-même n'a qu'une importance secondaire, eh bien, je ne me souvenais absolument plus de comment ça se terminait, parce que justement, il y a eu tellement de suspects potentiels qu'à la fin, tu ne te souviens même plus duquel était le vrai. Eh bien, ici, on a à peu près le même principe. Alors évidemment, on n'a que 10 épisodes, donc peut-être qu'on se souviendra malgré tout qui a fait le coup, mais voilà, au niveau de la narration, c'est plutôt de ce côté-là qu'il faut aller chercher. Au niveau des images, c'est vraiment là-dessus principalement que l'effort a été fait, et ça se voit. C'est vraiment une belle réussite à ce niveau-là. Mais par exemple, il y a des plans sur un barrage qui font fort penser aux Revenants. Il y a toute cette ambiance de village où tout le monde cache un petit peu quelque chose autour d'une enquête pour meurtre qui peut faire penser à Broadchurch, enfin, etc., etc. Donc, comme tu le vois, on profite moins de l'histoire en elle-même que de passer notre temps à jouer, à voir où sont les
ressemblances.
Les ressemblances.
Oui, okay.
Ça, c'est un petit peu dommage. C'est la première chose que je reprocherais. La deuxième chose... alors... par où commencer ? La deuxième chose. Allez, il y a énormément de scènes de sexe, tout simplement, mais qui sont là, à mon avis, parce que dans les séries américaines qui ont inspiré ce scénario, il y a des scènes de sexe. Simplement, ça tombe bien souvent très bizarrement. On n'est pas sur HBO, on est sur la Une, déjà, première chose. Hein. Et deuxième chose, ce serait quand même bien que ces scènes aient un minimum d'intérêt pour l'intrigue. Il y en a quand même une grande part qui sont très, très dispensables. Disons que, à part nous montrer une paire de fesses et une paire de nichons régulièrement, ça n'amène pas grand chose de plus, quoi. Donc
ce n'est pas justifié, en gros.
Voilà, c'est pas très justifié, donc ça, c'est aussi un petit peu dommage. On voit à nouveau où sont les inspirations, mais sauf que ce serait bien d'un petit peu s'éloigner du modèle d'origine, quoi. Donc ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose que je vais pouvoir dire aussi, on a l'impression de ça rejoint un petit peu ce que je dis à propos des scènes de sexe. On a l'impression qu'il y a des figures imposées qui reviennent régulièrement comme ça, qui sont un petit peu, enfin, qui n'apportent pas grand chose de plus.
Un peu forcé.
Une scène de vache morte, une scène de sexe, un dialogue un petit peu. Les dialogues, il y a beaucoup de dialogues où tu te dis, ouais, il y a un problème au niveau de l'écriture des dialogues. Ça aurait dû, d'après moi, être travaillé, parce que c'est pas toujours génial, malheureusement. Ça, c'est le plus gros défaut que je reprocherais, c'est vraiment au niveau des dialogues. Surtout que il y a une tendance à la, tu vois, à être super dark comme ça, super énervé, super de plus en plus t'avances dans la série et plus t'es là-dedans, qui fait un peu penser d'ailleurs à True Detective, mais cette fois-ci saison 2, tu vois le truc où ils sont tous super super dépressifs, super et tu comprends pas trop pourquoi, parce qu'en soi, bon, c'est pas, enfin, il y a rien de si grave que ça, quoi. Enfin, c'est un, pour ça, c'est un petit peu bizarre, dérangeant. Notamment le personnage principal. À chaque fois qu'il interroge quelqu'un, il est persuadé que c'est le coupable. Hein, donc il l'interroge, mais avec une force pas possible. Même si c'est un autiste, un enfant ou n'importe qui, il va l'interroger avec violence. Ce qui est peu quand même particulier, donc on peut pas s'empêcher. Enfin, j'avoue que j'ai énormément rigolé. J'étais pas toute seule à regarder cette série et on a bien ri. Il faut l'avouer, on a pas passé un mauvais moment. Mais
vous vous moquiez, quoi, en gros.
Un petit peu. Donc ça, c'est encore un point. Alors, autre chose qui fait fort série américaine, on a la figure imposée de l'adolescente hyper chiante à laquelle t'as envie de foutre des baffes. Bon, ben ça c'est fait, hein. qui n'est là finalement que pour énerver un peu plus le héros qui a déjà vraiment pas besoin de ça, hein, le pauvre. Donc ça commence à faire beaucoup. Malgré tout, les révélations s'enchaînent de manière relativement cohérente et sur l'ensemble des épisodes, c'est assez bien réparti. Et au final, il y a des rebondissements. Bon, tous ne sont pas particulièrement surprenants, mais à nouveau, sûrement, surtout pour les personnes qui ont déjà vu beaucoup de séries auparavant. Je crois que j'ai fait le tour des critiques principales.
Bien, c'est déjà pas mal. Bel effort, hein. Tu l'as regardé complètement, je te connais. Habituellement, tu abandonnes.
Oui, mais là franchement, c'est malgré tout, on est fiers du travail qui a été accompli.
Je dois dire, tu viens de m'expliquer, moi j'ai pas eu l'occasion de la voir cette série, eh bien ça me donne envie de la regarder.
Ben oui, mais je peux comprendre, je l'aurais pas vue, à mon avis je sauterais malgré tout dessus aussi, parce que vraiment le truc que je reprocherais le plus, c'est de ne pas s'être suffisamment éloigné des modèles. L'identité belge est donnée un petit peu par le décor, beaucoup par le casting. Casting qui est pas, enfin moi je l'ai pas trouvé génial. Alors d'accord, on n'a pas misé sur les physiques, hein. On aurait pu pour un ou deux personnages peut-être faire en trouver un ou deux un peu beaux pour rehausser le plaisir des yeux. Mais bon, admettons, on a le casting, mais Il y en a certains, ça dénote un petit peu. Un autre truc qui est assez drôle aussi, donc c'est une série quand même majoritairement wallonne. Là-dedans, il y a deux personnages qui parlent avec un accent flamand assez prononcé, dont un des deux qui est plutôt louche et qui a des trucs à cacher, et l'autre c'est le crétin fini que tout le monde engueule parce que c'est le plus paresseux de la bande et qu'il est complètement con, quoi. Donc à mon avis, il y a une petite vengeance symbolique de ce côté là
là tu gardes tes propos pour toi, hein.
Je ne sais pas, mais voilà. J'ai l'impression qu'il y a une petite vengeance, bref. Mais par contre, le flic avec l'accent flamand là, lui, j'ai trouvé qu'il jouait bien par rapport à d'autres personnages qui joue un petit peu moins bien. Mais comme je l'ai dit, comme les dialogues sont pas toujours géniaux, c'est pas forcément non plus super facile de jouer correctement ce genre de choses. Voilà, bon, malgré tout, Cocorico, on va dire ça comme ça.
Oui,
bel essai, on ne peut qu'encourager, c'est super de l'avoir fait, déjà.
Bien, je suis en congé bientôt, hein, pour les semaines de Pâques, je vais peut-être essayer de trouver un petit peu de temps pour la regarder, cette série. Je ne promets pas non plus, hein, mais ce n'est pas une priorité. Mais voilà, je suis intrigué.
Ben oui, écoute. Vraiment, qu'ils aient trouvé les moyens et que le produit soit aussi bien ficelé, je dois dire que c'est malgré tout une belle réussite. Voilà.
Bien. Ben c'est
alors,
tout.
C'est tout ?
Sérieusement, c'est tout. On a déjà parlé plus de 16 minutes là. Oh. Donc c'est terminé, je vois que tu es trop frustré. Si tu veux parler de tes séries, je veux bien, hein, dans quelques minutes après une pause musicale.
D'accord.
Mais là, il faut qu'on fasse une pause.
Oui, oui, d'accord. Bon, ben on va s'écouter alors une série, une chanson qui n'aura rien à voir avec ce que j'ai dit avant du coup. Ça s'appelle « Everybody Wants to Rule the World » de Tears for Fears et ça a été entendu dans « Up and Leonard ».
Welcome to
Eh bien voilà, nous sommes de retour. Alors je te vois toute frustrée, évidemment, puisque tu n'as pas pu parler au minimum de deux pilotes en plus que tu avais sur ta liste.
J'en avais même trois en plus,
oui, mais...
parce que comme après cette émission-ci, on a deux semaines de...
C'est toi qui veux plus en parler,
on vient d'en discuter,
tu veux pas. Tu as voulu faire ton choix à propos de la trêve, ben voilà, t'es
mais
puni.
Mais écoute, ça valait malgré tout la peine
évidemment.
D'en parler, hein.
Bon, bah c'est fini pour les pilotes, on va entamer le sujet du jour, qui est...
Eh bien, je me suis dit qu'il était peut-être temps de faire un petit point sur les critères qui peuvent nous permettre de juger éventuellement d'une série. Tu vois bien que chaque semaine dans cette émission, j'essaie de dire quels sont les pilotes qui m'ont plu ou qui m'ont pas plu et pour quelles raisons.
Et donc tu vas en rajouter parce que je pense que c'est un sujet qu'on a abordé il n'y a pas si longtemps déjà, les critères de pour une bonne série. Non ? Pas comme ça que tu l'avais présenté ?
Non.
Ça ne te dit rien.
Non, pas du tout. J'avais écrit un article sur les critères il y a 2 ans, quand on avait commencé l'émission, mais je me souviens pas qu'on ait parlé de ça récemment, non.
Bon, soit.
sûrement une émission où tu dormais, à mon
avis.
Oui,
c'était pas tout à fait le sujet, mais bon, bref. Alors, ces fameux critères.
Donc, l'idée, évidemment, c'est d'essayer de faire un petit peu permettre au maximum de s'y retrouver parmi toute l'offre des séries qui arrivent à nous. Quelles sont les raisons qui nous poussent à abandonner ou au contraire à continuer une série. Et surtout, une fois qu'on la présente aux autres, j'ai l'impression, notamment quand je discute avec des gens, j'ai toujours plein de suggestions. « Ah, tu devrais regarder ça, tu devrais regarder ça, etc. » Et il n'y a jamais vraiment de critères qui permettent de savoir pour quelles raisons je devrais regarder ça. C'est à chaque fois, et même sur les réseaux sociaux, dans les groupes, les forums ou quoi que ce soit, c'est toujours ça, c'est « Ah, cette série-là, c'est génial !» Oui, d'accord, mais il y a tellement de raisons qui peuvent faire qu'une série est géniale qu'au final, tu ne sais jamais si ça va te plaire à toi. Et donc, voilà, je trouve que c'est frustrant parce que tu es obligé d'essayer plein de trucs.
C'est compliqué,
j'aimerais un petit peu...
Théoriser la chose
pour permettre d'y voir un peu plus clair parmi toutes les séries, déterminer quels sont les critères qui pourraient nous permettre de les distinguer. Voilà, pour éventuellement aussi distinguer celles qui sont dispensables de celles qui sont indispensables. Et le premier critère sur lequel on va se reposer, eh bien, c'est évidemment le critère de plaisir, puisque nous sommes dans le divertissement. Le plaisir, par contre, on en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Le plaisir, ici, que je vais aborder à travers différents critères, c'est pas uniquement « Ah ouais, c'est super fun, qu'est-ce qu'on s'amuse » ou bien « Qu'est-ce qu'on rigole bien en regardant ça ?» C'est pas uniquement ça. Le plaisir va être apporté quand on se trouve face à une œuvre qui a été bien faite. Alors, bien fait, ça peut vouloir dire énormément de choses, évidemment, mais globalement, c'est une œuvre qui apporte une certaine cohérence, qui nous permet d'adhérer à la fiction sans arrêt nous sentir sortis par un détail qui dérange et qui nous semble pas vraisemblable.
Qui nous fait ressentir des émotions aussi, peut-être. Pas que du plaisir, on va dire rigoler, mais peut-être se sentir impliqué, se sentir reconnaissant.
Voilà, ça va être prenant, et puis c'est intelligent, c'est subtil. Enfin, il y a plein de raisons qui peuvent dire qu'un travail est bien fait. Si toutes ces raisons-là sont sont réunis, eh bien, on peut considérer que les créateurs de la série, toute l'équipe qui est derrière, a bien fait son travail. Alors, ça va pouvoir porter sur énormément d'éléments différents. Le premier, ce sera l'intrigue, évidemment. Une série, généralement, ça nous raconte une histoire. Et donc, il y a certaines séries qui misent principalement là-dessus, qui ont un mystère ou bien une... une grande histoire à nous raconter qui nous tienne en haleine, etc.
Au niveau de l'histoire, après avoir vu, comme tu l'as déjà bien expliqué, autant de séries, je crois que maintenant la force à ce niveau-là, c'est d'être original.
Ça va être évidemment de surprendre, de nous apporter quelque chose auquel on ne s'attend absolument pas, des retournements de situation.
Bah, éviter également le déjà vu, voilà.
Évidemment. Je ne sais pas si t'as des exemples de séries où vraiment c'est l'intrigue super bien ficelée qui t'a permis de rester intrigué jusqu'au bout, qui t'a donné envie de continuer à suivre.
Une qui a tenu dans la longueur, c'est Breaking Bad pour moi.
Oui.
Parce qu'ils ne nous ont jamais vraiment déçus, l'univers est toujours resté tel que lui-même. Ils n'ont pas dévié vers quelque chose de tout à fait improbable, même si de temps en temps on détestait les personnages. Là ils ont su garder la cohérence, j'ai envie de dire. La première saison de True Detective m'a beaucoup plu. C'était court, c'était un peu, à ce niveau-là, je ne veux pas dire facile, mais en tout cas, plus facile que de tenir 7 ou 8 saisons, tu vois.
Oui, évidemment, quand on a des anthologies. Et d'ailleurs, tout ce qui est mini-série, anthologie, etc., vont bien souvent beaucoup plus reposer sur l'intrigue que les séries au très long cours, les procedurals, etc., qui en effet nous proposent des histoires différentes à chaque épisode, mais finalement c'est toujours un petit peu la même trame narrative, et donc c'est pas pour ça véritablement qu'on revient, quoi, la plupart du temps. Mais donc il y a certaines séries, généralement on va dire que ce sont les séries où on revient parce qu'on a envie de savoir ce qui va se passer par la suite, et donc on se souvient particulièrement bien, normalement, de la manière dont ça se termine. Ça, ce sont les séries pour lesquelles l'intrigue est le plus important. Donc, éventuellement, tu peux dire « oui, cette histoire-là est géniale parce que l'intrigue ne te lâche pas », etc. Premier critère, donc, l'intrigue est super bien ficelée, elle est géniale. Deuxième critère, ce seront les personnages. Alors, évidemment, et on a déjà consacré aussi des émissions à ce sujet-là, quand on a des personnages particulièrement attachants ou bien fascinants dans une série, ça peut aussi, à lui seul, être un critère qui nous pousse à revenir continuellement. Un personnage particulièrement bien construit, particulièrement bien écrit, particulièrement bien caractérisé, va pouvoir être suffisant pour nous donner envie de revenir. Un exemple ?
J'ai un parfait exemple du contre-exemple, en fait. Enfin, ça colle, mais ça ne suffisait quand même pas à faire tenir la saison debout. Ou la série, c'était dans Prison Break, le T-Bag. Tu vois, on revenait pour lui. Chaque fois qu'il y avait une scène avec lui, on prenait un petit peu de plaisir. Mais tout le décor, toute la partie englobante était à chier.
Mais les dernières saisons, c'est vrai, on fonctionnait beaucoup parce que malgré tout, il y avait un ou deux personnages qu'on aimait tellement qu'on avait quand même envie de le voir jusqu'au bout, même si le reste ne tenait pas ses promesses tout autour, quoi. Bien souvent, alors je crois qu'on a plusieurs types de séries dans lesquelles les personnages sont vraiment centraux. On a les séries dans lesquelles on a un personnage principal qui attire toute l'attention et qui va vraiment être l'argument principal. House,
oui,
Sherlock, éventuellement Dexter même, de séries là. On a aussi les séries dans lesquelles on a des personnages particulièrement fascinants et bien souvent, si on a un bon personnage, on a plusieurs bons personnages parce que ça veut dire qu'on a une équipe de scénaristes qui savent particulièrement bien nous écrire des personnages, et donc on peut penser à Oz, à Lost,
à Lost, bah oui, rien qu'un comment il s'appelait encore l'ami allez je viens de l'avoir son nom qui passe dans ma tête mais
ok, voilà.
Oui, c'était bien.
Ok, et donc, mais on...
Sawyer, donc.
Voilà, c'était Sawyer, je m'en doutais un petit peu. Et donc, on a aussi certaines séries qui vont vraiment être capables de nous proposer des personnages tous différents. Une autre série aussi que je ne peux pas ne pas citer, c'est Justified, dans cette histoire de personnages.
Oui, bien sûr.
Et qui donc tous ont vraiment une voix particulière. On a aussi des séries dans lesquelles tous les personnages portent un petit peu la même voix. Dans toutes les séries de Aaron Sorkin, par exemple, on a l'impression que c'est tous un peu la même personne parce que finalement ils parlent tous de manière un petit peu semblable.
Et ils défendent la même cause.
Bien souvent, oui. Donc voilà. Bon, bref, on a des séries avec des très bons personnages. On va aussi pouvoir parler des séries avec les très bons univers, des séries. Généralement, il faut leur laisser le temps qu'elles puissent se construire sur la longueur, mais plus une série se développe normalement et plus son univers va pouvoir se développer.
Et là, on peut reprendre Breaking Bad, évidemment. The Wire, peut-être, une plus ancienne.
The Wire, oui, très, très bon exemple de série dans laquelle on a un univers qui n'est pas du tout imaginaire, mais qui c'est vrai, s'étend et se complexifie avec le temps. Moi, évidemment, je parlerai également de Buffy parce que c'est inévitable et tu lèves les yeux au ciel, évidemment. Une autre chose qui est très importante, ce seront les dialogues. Et là-dedans, on va pouvoir mettre vraiment l'humour également, le fait qu'on ait des répliques particulièrement bien écrites, qui sonnent juste. Ça peut aussi être très important. Et puis finalement, le propos que va tenir une série. Une série va pouvoir nous parler, par exemple, traiter plutôt de la question de la justice, de la question de la vérité, de la question de la famille, de la question du couple, etc. Et à chaque fois, si elle s'y prend bien, ça peut être aussi un argument qui nous pousse à revenir, d'avancer avec la série dans cette réflexion-là. Ça peut aussi être intéressant. Donc tout ça sont des raisons qui peuvent nous donner du plaisir quand on regarde une série.
Bien.
Voilà.
Bah oui, moi je regarde le chrono. Tu
mais
sais
oui,
bien,
oui.
Je suis un peu ici jugé parti, mais ouais. Je dois te dire que c'est terminé. On fait une pause.
Ok, alors la pause ce sera Crazy Dreams de chanté par Megan Hilty, et c'était dans Smash.
Runners, hairbrush singers, dashboard drummers. Hello, you wild magnolias, just waiting to bloom. There's a little bit of all that inside of me and you. Thank God, even. bottom of some walls I thought I couldn't climb. I felt like Cinderella at the ball, just running out of time. So I know how it feels to be afraid and think that it's all gonna slip away. Hold on, hold on. Here's to you free souls, you firefly chasers, tree climbers, porch swingers, air guitar players. Here's to you fearless dancers, shaking walls in your bedroom.
Nous voici de retour avec les prochains critères de sélection d'une série qui vaut la peine d'être vécue.
Oui.
Ben, c'est ça, en gros, hein, il faut s'imprégner de la série. Hein.
Oui, tu as bien raison. Donc, en dehors simplement du plaisir que l'on peut avoir à regarder une série, on a vu que ce plaisir pouvait nous être apporté par énormément d'éléments différents. Je ne me souviens plus si j'avais parlé de la réalisation, mais j'espère que oui. Donc ça faisait aussi partie du plaisir.
Non, tu n'en avais pas parlé.
Non.
Non,
bon,
ben voilà.
Ça faisait aussi partie du travail bien fait qui pouvait nous apporter du plaisir. En dehors de ça, on va avoir deux autres éléments qui vont pouvoir jouer aussi pour justifier l'intérêt d'une série. Une série peut être très, très bien faite et se suffire à elle-même, mais parfois aussi, ça ne suffit pas, parce que des séries qui sont extrêmement bien faites, y en a de plus en plus. Et donc, malgré tout, qu'est-ce qui pourrait éventuellement donner un petit élément supplémentaire, un argument supplémentaire pour avoir envie de regarder telle ou telle autre série? Ce seront l'originalité, fait que telle série sorte véritablement du lot. Alors, ça peut être pour énormément de choses différentes, mais évidemment, plus on avance dans l'histoire de la télévision et donc des séries télévisées, et donc plus le public est habitué, et plus ça va être difficile,
compliqué, oui,
d'apporter de l'originalité, mais en même temps, pas tant que ça, parce que justement, tout le monde finit par avoir une sorte de background commun, une culture télévisuelle commune qui permet de construire là-dessus aussi. Et donc, malgré tout, on voit que ces derniers temps, on a énormément de séries qui misent là-dessus, qui misent sur l'intelligence et la culture télévisuelle du téléspectateur pour jouer avec lui, l'entraîner dans ses délires et ça, l'originalité permet aussi de se construire grâce à ça. Mais donc, on va avoir évidemment énormément de possibilités de sortir du lot. très, très différentes les unes des autres. Et à nouveau, ben, ça peut être autant dans l'intrigue, dans les personnages, dans l'univers, la réalisation, les dialogues, le propos. Ça, c'est, ben, on a énormément de possibilités différentes. Est-ce que toi, tu aurais une série qui t'a paru particulièrement originale ces derniers temps? Quand je dis derniers temps, ça peut être... un ou deux ans, à laquelle tu pourrais penser?
Bonne question. Bah, Fargo, peut-être.
Ouais. Évidemment, c'est vrai que Fargo, pour ça, a vraiment tapé droit dans le mille, puisque, ben, en dehors du fait que c'est un vrai plaisir sur tous les plans, je crois qu'il n'y en a pas un seul qui rentre pas, où c'est pas carton plein, l'intrigue, les personnages, l'univers, la réalisation, les dialogues, le propos, tout y est. Et on a aussi l'originalité. Évidemment, plus une série va être bonne, et plus il y a des chances que, ben, qu'elle soit bonne dans de plus en plus de domaines, hein. C'est quand même rare qu'une série qui est particulièrement mauvaise sur tous les points soit absolument géniale pour une chose. Généralement, plus c'est bon et plus on aura de raisons de la défendre. Donc ça, c'est l'originalité. On peut aussi estimer, par exemple, qu'une série comme Mr. Robot cet été a surpris par le ton un petit peu différent qu'elle pouvait apporter. C'est en grande partie pour ça qu'elle a connu un tel succès et une telle visibilité. C'est parce qu'elle a un petit peu surpris les téléspectateurs, surtout à cause du network sur lequel elle était diffusée, USA Network, qui est plutôt habitué à des séries plus classiques et conventionnelles. Donc ça joue évidemment aussi, hein, quand on sort un petit peu du lot dans son propre dans sa chaîne ou son network, ça peut jouer. Deuxième chose qui va également pouvoir être un critère, qui est même, je dirais, de plus en plus mis en avant pour défendre telle ou telle série qui débarque, puisque, ben, y en a de plus en plus qui débarquent tout le temps, toute l'année et en même temps, ce sera l'actualité de cette série. C'est une série qui tape dans le mille de ce qui fait les préoccupations du moment. À la fois, elle peut traiter de sujets absolument universels, mais elle va avoir une manière beaucoup plus actuelle de la traiter, qui vont suffire à lui donner de l'intérêt. Par exemple, ben, ces derniers temps, toutes les questions de représentation de la diversité, de place accordée aux femmes, aux minorités, etc., est extrêmement importante dans la critique et va aussi prendre de plus en plus de place dans les raisons pour lesquelles telle ou telle série va être démolie, même si éventuellement elle pourra avoir bon sur toute la ligne, sur plein d'autres points, mais si elle ne répond pas malgré tout à certains critères de diversité et de représentation des femmes, des minorités, etc., eh bien elle risque de malgré tout être vertement critiquée. Donc c'est aussi assez important. Il y a certaines modes, hein, certaines préoccupations qui vont pouvoir prendre le pas parfois sur la série en tant que telle, à elle toute seule, comme œuvre totalement dégagée du monde dans lequel elle vit. Voilà.
Mais voilà, c'est un bon moment pour déjà remarquer une pause musicale.
Oui, une pause musicale, ce sera All the Small Things de Blink-182, entendu dans Buffy the Vampire Slayer.
Voici déjà entamé la quatrième et dernière partie de cette émission.
Oui, alors on a cité plein de critères là, et finalement tous ces critères là, même si évidemment il peut y avoir des désaccords et des discussions autour de ça, ça reste des critères relativement objectivables. Bon, relativement, hein, parce que malgré tout, il y a toujours une part de subjectivité qui rentre là-dedans. Certains apprécieront particulièrement la réalisation d'une série, et d'autres la trouveront plate. Certains trouveront une série particulièrement originale, là où d'autres n'y verront qu'un récit finalement très classique. Mm-hmm. Donc, mais il y a quand même moyen de discuter sur des choses un petit peu concrètes, quoi. À tout ça va se rajouter malgré tout une grosse part d'individualité, de dimension subjective qui est simplement nos goûts personnels, notre personnalité, les thématiques qui nous touchent, nous, individuellement, mais aussi les sujets qui nous intéressent ou pas, et puis notre culture télévisuelle aussi. Ainsi, eh bien, que ce soit pour n'importe lesquels des critères que j'ai pu citer précédemment, une personne qui aura vu telle ou telle série avant de voir celle qui serait à critiquer là maintenant, n'aura pas forcément le même point de vue. Ça pourra lui paraître totalement inédit et original s'il n'a pas vu telle autre série avant, ou bien au contraire, eh bien, assez banal, voire repompé si on a vu l'autre en question, ce genre de choses-là. Telle intrigue aussi peut sembler finalement attendue ou bien au contraire assez surprenante si on n'a pas vu telle ou telle autre chose. Enfin, forcément, ça joue un rôle énorme. Et dans la mesure où on est dans un domaine dans lequel il est impossible d'avoir une connaissance encyclopédique de tout ce qui s'est fait auparavant, d'ailleurs, je crois que c'est à peu près le cas dans tous les domaines actuellement, hein, mais donc forcément, il y a une part de subjectivité qui va se placer là, dans le fait qu'on ait vu telle ou telle chose ou pas. Autre chose, l'intérêt qu'on va pouvoir porter à tel sujet. Moi, je suis particulièrement intéressée, par exemple, par l'espionnage. Eh bien, forcément, les séries qui traitent de cette question-là vont plus me passionner que quelqu'un qui est plus intéressé par le sport et qui éventuellement pourra regarder telle autre série qui traite du milieu du sport. Les goûts personnels aussi, hein, notamment au niveau esthétique, au niveau de la musique qui passe, au niveau de plein d'éléments comme ça, mais les goûts, ça va aussi pouvoir jouer un rôle. Mmh. Notre personnalité, par exemple, je me prends moi comme exemple, puisque je me connais mieux que... que quiconque, je sais bien que les séries dans lesquelles on a des personnages qui agissent de manière totalement irrationnelle, sans qu'on arrive véritablement à s'expliquer pourquoi, ça a tendance à m'énerver énormément. Et pire encore, les séries dans lesquelles on a des gens qui reprochent à d'autres gens telle ou telle action, peu importe, tout ce qui est culpabilisation, tout ce qui est reproche, etc. Je déteste ça, ça me fout hors de moi. Et donc, c'est purement une question de personnalité, mais tu vois, ça peut énormément jouer. C'est la raison, par exemple, pour laquelle une série comme Parenthood, qui est particulièrement appréciée par plein de sériephiles, moi, j'ai énormément pas, de mal ouais. à cause de ça, quoi, à cause de ces reproches incessants qui me mettent extrêmement mal à l'aise. Et enfin, les thématiques aussi. Hein. Il y a certaines thématiques qui nous touchent personnellement plus que d'autres. Certains seront plus touchés par exemple, la thématique de la justice. Certains seront plus touchés par les thématiques plus individuelles, des thématiques politiques. Enfin, tu vois, à nouveau, pour me prendre comme exemple, je sais que les thématiques du rapport à la vérité, à la réalité, etc., je crois que ça s'entend suffisamment dans les émissions qu'on a fait depuis quelques années maintenant. Ce sont des questions qui me passionnent. Tout ce qui est aussi le rapport entre individus et collectivités, ce sont des questions qui me passionnent. Et donc forcément, toutes les séries qui traiteront intelligemment, bien sûr, de ces thématiques, j'aurais tendance à y trouver beaucoup plus d'intérêt que quelqu'un qui se sentira pas forcément touché par cette thématique-là. Je ne sais pas si toi, ça évoque quelque chose en toi, s'il y a certaines choses que tu sais que, à cause de ta personnalité ou de tes intérêts, tu vas être plus poussé à les apprécier que
oui, bien sûr. Déjà, quand on me parle pas d'histoire d'amour, ça, je me porte pas plus mal. Et outre la thématique en elle-même, moi, je vais revenir sur un autre aspect, c'est le décor. Et quand je parle décor, ça peut être le décor en lui-même, mais c'est surtout où est-ce qu'on se retrouve, dans quelle nature, tu vois, est-ce que c'est mis en avant, est-ce que ce sont des plans de coupe qui peuvent servir le récit, enfin, voilà. Moi, je suis aussi fort pris par cette espèce de reportage touristique, là, tu vois.
Mm-hmm. Oui.
Ça, j'aime bien.
Ah oui, mais tu vois, à nouveau, il y a certaines choses que toi, tu remarques et que moi, je remarque absolument pas. Et c'est vrai que on a cité plein d'éléments qui sont importants, mais par exemple, je l'ai dit au tout début, l'intrigue, pour moi, c'est pas quelque chose de très important. Par contre, je crois qu'on l'a déjà suffisamment entendu. Le propos et le message que font passer les séries, ça, c'est vraiment super important pour moi. Mais donc, ça, d'une personne à l'autre, ça change. Et donc, une fois qu'on a l'addition de tous ces critères-là, hein, on va pouvoir déterminer quelles sont les séries incontournables. Ce qui est intéressant à voir, c'est que on a vu qu'il y avait une certaine part de subjectivité dans le choix des séries qui sont importantes pour nous, mais malgré tout, au final, on peut se rendre compte qu'il y a certaines séries qui deviennent incontournables pour une grande majorité des gens qui les ont vues et qui montrent que même quand on est subjectif, finalement, on n'est jamais très très loin de quelque chose qui nous touche tous collectivement. Et donc voilà, c'est peut-être comme ça qu'il y aura moyen de déterminer les séries véritablement importantes, celles qui restent.
Oui.
Voilà.
Eh bien, je propose que ce soit le mot de la fin. Je conseille fortement à toutes les auditrices et auditeurs qui ont écouté cette émission de pouvoir la retrouver en podcast pour bien se rappeler tous les critères qui ont été énumérés. Elle sera disponible très bientôt via le site internet de Sériefolie, sériefolie.be, via les réseaux sociaux également. N'hésitez pas à lire les beaux articles qui se trouvent sur le site internet. Vraiment, hein, c'est du boulot. Et puis pour le reste, on ne revient pas la semaine prochaine. On va prendre nos deux petites semaines de vacances bien méritées durant les congés de Pâques. Et pour le reste, on va se quitter en musique, Aurore.
Oui, on va s'écouter Beautiful Day de U2, entendu dans Scrubs.
Parfait, à très bientôt sur nos antennes.
À bientôt.
The heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. Love is down.
disappear.